Griselda, son mari Dario et leur fils Michael Corleone s'installent sur la côte de Floride en 1978. La petite famille a passé sans encombre la sécurité de l'aéroport. Abîmée par la drogue, le visage de la marraine est méconnaissable. Et bien sûr, ils voyagent sous de faux noms, avec de faux papiers.
Miami, à la fin des années 70, est une petite ville balnéaire paisible. Un paradis ensoleillé pour vacanciers et riches retraités, facilement accessible en avion et en bateau. Plage, mer, piscine, hôtel, magasin, c'est le rêve.
Griselda a déplacé sa famille et son business. Elle pèse déjà 500 millions de dollars. Mais sûre d'elle, elle décide de se lancer dans un trafic à grande échelle, comme personne ne l'a fait auparavant. Les petites frappes du deal de Miami ne peuvent pas faire le poids, de toute façon. Quand Griselda arrive quelque part, tout le monde s'écarte. Ceux qui ne se soumettent pas, elle les tue. C'est comme ça que la madrina gère la concurrence. En quelques mois, elle règne sur Miami. Sa fortune triple et dépasse le milliard de dollars en cash. 1500 hommes travaillent sous ses ordres. Elle possède un penthouse, une villa à Miami Beach, plusieurs voitures de luxe, des cabriolets, des Rolls. Elle raffole aussi des diamants et des bijoux hors de prix. Elle a par exemple acheté une bague appartenant à Eva Perón, ex-première dame de l'Argentine. Oui, Griselda Blanco aime le luxe et les hommes sanguinaires. Et justement, pour asseoir encore plus son autorité à Miami, elle vient de recruter un nouveau tueur à gages, Jorge Ayala, que tout le monde surnomme Rivi, un Colombien américain. Il n'a peur de rien et exécute froidement quiconque se met en travers de la route de sa patronne. Griselda Blanco est une femme dangereuse, en affaires comme en amour. Pensant que son mari Dario la trompe, elle fait tuer les 8 stripteaseuses qu'elle soupçonne. À Miami, la reine du Queens devient un ange de la mort.
Le 11 juillet 1979, les policiers du comté de Dade sont appelés en urgence dans un centre commercial. Ils n'ont jamais vu ça. En plein après-midi, dans un lieu bondé de civils, deux hommes ont été abattus à la mitrailleuse. 4 passants ont été blessés. 88 cartouches ont été tirées. Sur place, les rescapés sont ahuris. Tout s'est passé tellement vite. En quelques minutes seulement, le parking du centre commercial est devenu un no man's land. Les vitrines du magasin, les vitres des voitures garées devant, tout ont explosé. Des morceaux de verre jonchent le sol, mélangés à la mare de sang autour des deux cadavres. Pour la plupart des civils, c'est la première fois qu'ils voient des corps criblés de balles. Ils sont totalement traumatisés. Les policiers, eux, sont déconcertés. Autant de douilles par terre, en pleine journée, que peuvent-ils faire face à autant de violence ? C'est à ce moment-là que le sergent Al Singleton entend parler de la madrina. La fusillade, c'est elle.
Plus tôt dans l'après-midi, les hommes de la Veuve Noire sont arrivés dans un fourgon blanc blindé, une Ford Ecoline, siglée d'un nom d'une entreprise de fête, Happy Time Complete Party Supply. Ils se sont garés et ont ouvert le feu depuis leur véhicule. Leur cible ? Deux trafiquants de drogue qui faisaient leur course. German Panesso et son garde du corps, rivaux de Griselda. Griselda devait $1 million à Panesso. Elle ne voulait pas payer. Elle a réglé l'affaire à sa manière, comme au Far West.
Au vu de cette scène surréaliste, les enquêteurs renomment ces pistoleros, ces tueurs sans foi ni loi, les Cocaine Cowboys. Ce massacre, au centre commercial de Dayland, est le déclenchement de leur première guerre.
Griselda aime la guerre. Elle a grandi avec. Elle ne connaît que ça. Elle aime lire la peur dans les yeux de ses interlocuteurs. Elle aime tenir leur vie entre ses mains. D'ailleurs, plus le temps passe, plus la violence devient une fin en soi pour elle. Le trafic de drogue n'est plus son moteur. Elle assassine par plaisir, sans aucun état d'âme. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
Depuis que la marraine s'est installée à Miami, le taux d'homicide dans la ville a explosé. La guerre des narcotrafiquants n'obéit à aucune règle. La police est complètement dépassée. Ils ne sont pas assez équipés face aux dealers surarmés. Pour faire face à l'arsenal de Griselda, ils n'ont que des calibres 38 à 6 coups. Ils n'ont pas non plus assez d'effectifs, alors ils embauchent à tour de bras. N'importe qui. Au début des années 80, Miami atteint un niveau de violence jamais vu et devient la ville la plus dangereuse des États-Unis. Et cela ne va pas en s'arrangeant. En 1981, le dirigeant de Cuba, Fidel Castro, expulse 125 000 Cubains, des contre-révolutionnaires. Pendant l'exode de Mariel, du nom du port cubain d'où ils partent, tout ce que Cuba compte de truands, voleurs, violeurs, meurtriers, dealers, est envoyé à Miami. Des Cubains qui veulent tirer parti du business de la coke, en pleine guerre des cocaïne cowboys. Leur arrivée déclenche de nouvelles violences. Les homicides sont quotidiens, en plein jour, en pleine rue. Il y a tellement de morts que les morgues sont débordées. Il n'y a pas assez de chambres froides pour stocker tous les cadavres. Les légistes sont même obligés de louer un camion réfrigéré appartenant à la chaîne de fast-food Burger King. À l'apogée du règne des Cocaine Cowboys, en 1981, 600 homicides sont enregistrés en un an. Miami n'est plus un paradis. C'est une zone de guerre.
Griselda tue pour une dette, pour un problème de livraison, ou bien juste pour un regard de travers. Elle a d'ailleurs inventé une façon simple et rapide d'abattre ses cibles. Ses hommes, un tireur et un conducteur, grimpent sur des motos, filent à toute vitesse sur les routes, s'approchent de la voiture de la cible, la rafalent à coups de mitraillette et s'enfuient en quelques secondes. La victime n'a ni le temps de les voir, ni de réagir pour éviter les balles. Mais Griselda aime aussi les mises en scène. Une fois, elle demande à son fidèle Rivi d'abattre l'un de ses ennemis en plein aéroport. Elle lui fournit l'arme, une baïonnette datant de la Première Guerre mondiale. Pour chaque contrat, autant dire chaque exécution, Rivi touche jusqu'à 50 000 dollars.
En février 1982, Jorge Ayala, Rivi, a un nouveau contrat. Il doit abattre Chucho Castro, un ancien homme de main et ami de Griselda. Il aurait manqué de respect à son fils Osvaldo. Son MC en main, Jorge monte dans une voiture, suit le véhicule de Chucho. Arrivé à sa hauteur, il mitraille. D'abord les pneus. Chucho perd le contrôle de sa voiture. Puis les fenêtres, les portes. La pluie de balles transforme le véhicule en passoire. Mais Chucho parvient à semer Rivi. Et il n'est pas touché. Par contre, son fils de 2 ans, Johnny, installé sur la banquette arrière, est mort sur le coup. Chucho, complètement effondré, rentre chez lui. Choqué, il nettoie le corps de son fils et le dépose devant une mosquée, enveloppé dans une serviette, sur laquelle il dépose 3 roses. La police découvre l'enfant quelques heures plus tard. Dans leur carrière, ils en ont vu des cadavres. Mais ce petit corps meurtri leur retourne l'estomac. Les blessures de l'enfant ne laissent pas de place au doute. C'est une victime de la guerre des cocaïne cowboys.
La Madrina demande à Rivi de tuer un jeune couple de dealers, Alfredo et Grisel Lorenzo. Leur tort, ils n'ont pas payé une cargaison de coke. Le 26 mai, Rivi entre armé dans leur maison de Miami. Il abat d'abord Alfredo, puis Grisel de 10 balles. Ensuite, il fait un tour du domicile. Dans la chambre, trois jeunes enfants, dont un bébé, regardent des dessins animés. Marqué par le meurtre du petit Johnny, il décide de les laisser en vie. À cause de Griselda Blanco, de la coke, de l'argent facile, les trois enfants du couple Lorenzo sont désormais orphelins.
Dans sa guerre, la marraine a perdu beaucoup d'amis. Elle a trop tué. Elle a amassé trop de dettes. Son propre camp se retourne contre elle. Sa croisade ultra-violente fait trop de tort au marché de la cocaïne et les prix ont chuté. La DEA, la police de Miami, mais aussi le cartel de Medellin, tous veulent sa peau. Pour maximiser ses chances de l'attraper, les fédéraux envoient à Miami celui qui connaît le mieux Griselda Blanco, Bob Palombo. Depuis l'opération Banshee à New York, il ne pense qu'à ça, attraper la reine de la cocaïne. Elle lui a échappé 7 ans plus tôt. Elle ne lui échappera pas une deuxième fois. Bob ne vit que pour ça. Il en est malade.
Dario, troisième mari de Griselda, en a assez des humeurs de sa femme. Leur mariage est un naufrage. Il décide, non sans heurts, de se séparer. Mais, problème, ils veulent évidemment tous les deux la garde de leur fils Michael Corleone. Alors, Dario décide de la faire à l'envers à Griselda. Prétextant une virée shopping entre père et fils, il se rend à l'aéroport avec Michael Corleone et décolle pour la Colombie. Griselda est hors d'elle. Son fils, la chair de sa chair, son petit qu'elle chérit tant, a été kidnappé. C'est une déclaration de guerre. Elle appelle immédiatement Rivi. Le tueur à gages, l'un des crimes, est retourné chez lui, à Chicago. Ce sera sans lui, cette fois-ci. Tant pis. Griselda a le bras long. Depuis Miami, elle engage 3 Colombiens à qui elle demande de se grimer en policier. Père et fils sont en virée à Medellin quand ils se font arrêter. En quelques secondes, Dario est abattu, devant Michael Corleone, qui n'a que 5 ans. C'est le troisième mari que la veuve noire tue. Aucun état d'âme pour Griselda. Elle a récupéré son fils. Mais de Medellin à Miami, tout le monde tourne le dos à la Madrina. Même ses plus vieux amis, Rafa, Pablo Escobar et son garde du corps, Remy Bravo. Sa tête est mise à prix par le cartel. 4 millions de dollars. De nouveau traquée, la reine de la cocaïne s'enfuit une nouvelle fois.
Le calme est revenu à Miami. Au même moment où la Madrina a quitté les lieux, les crimes ont cessé. Bob Palombo ne lâche pas l'affaire pour autant. Il s'est juré d'arrêter lui-même Griselda Blanco. Et quand ce jour arrivera, il se fera un plaisir de l'embrasser sur la joue. Il sait très bien qu'une guerre souterraine est en train de se jouer. Et il veut en profiter. Son plan ? Arrêter tous les proches et anciens proches de Griselda pour récupérer un maximum d'informations sur elle. Et, par la même occasion, faire définitivement tomber son réseau.